21 février 2019, au sommaire, le ministre Baines en visite à Montréal. Navdeep Baines, le ministre fédéral de l'innovation, des sciences et du développement économique, était de passage ce mercredi à la tribune de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il a, à cette occasion, dévoilé son rapport sur la mise en œuvre du plan pour l'innovation et les compétences. Notre journaliste Jessica Hébert était présente, elle a pu s'entretenir avec lui. Un reportage à découvrir dans quelques secondes. À suivre également, la chronique emploi de notre tête chercheuse, Émilie Laurenceau. Et enfin, nos invités de la semaine, ce sont Lydia Divry et David Bertrand. Ils viennent nous parler du collectif TI Santé, une initiative de Techno-Montréal et qui vise à mettre les technologies au service des plus âgés. Au micro, Philippe Regnoux, c'est l'hebdo, c'est maintenant. À la une de ce jeudi 21 février 2019, la visite du ministre Baines à Montréal. Salut Jessica.
Bonjour Philippe.
Alors notre économiste Audrey Azoulay en parlait déjà la semaine dernière dans sa chronique, le fameux rapport « Bâtir une société innovante » que le ministre fédéral de l'innovation a dévoilé il y a quelques jours. Et bien là justement, ce rapport, il venait en personne le présenter aux gens d'affaires montréalais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était attendu.
Effectivement, donc la rencontre était organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et le ministre Baines y était pour présenter, oui, les grandes lignes du rapport, mais surtout pour répondre à certaines questions ou inquiétudes de la communauté scientifique et d'affaires. Le sujet des super grappes d'innovation est revenu souvent dans les discussions. Rappelons que dans son plan pour l'innovation et les compétences, le gouvernement prévoit la création de 5 super grappes, notamment une en intelligence artificielle qui va être basée à Montréal. Par contre, le projet met du temps à se mettre en branle, notamment en raison de procédures administratives. Selon le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, faire les choses différemment demande du temps, mais le projet avance. Navdeep Baines.
Les super grappes représentent beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités pour toutes les entreprises, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises. Les super grappes ici au Québec, par exemple, pour l'intelligence artificielle, va créer 16 000 emplois. À mon avis, c'est nécessaire d'avoir une stratégie. Nous avons présenté une stratégie pour les super grappes.
Par contre, le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain me disait que les entreprises montréalaises qui ont été mobilisées pour la création de la super grappe, eh bien, ils commencent à s'impatienter et évitent de s'emballer tant que l'argent n'est pas disponible. Michel Leblanc.
Dans le cas de l'initiative des super grappes, et je l'ai dit au ministre, il y a eu un peu de frustration parce que ça a pris plus de temps qu'on l'avait anticipé. Il y avait, du point de vue du gouvernement, des exigences au niveau de la propriété intellectuelle, de certains types d'ententes entre les universités, les entreprises, les grandes et les petites. Tout ça a pris du temps. On devra régler immédiatement, très rapidement, ces enjeux administratifs pour que les appels à projets puissent être lancés.
Et il parle de frustration. On a senti la frustration hier un petit peu. L'aspect de la collectivité, de la connectivité, pardon, occupe une place importante dans ce fameux plan pour l'innovation et les compétences. J'imagine qu'il en a été aussi question dans la présentation du ministre.
Tout à fait, notamment parce que le gouvernement souhaite que 900 communautés canadiennes supplémentaires aient accès à la haute vitesse d'ici 2025. Je te dirais cependant que le point qui intéresse vraiment les entreprises, c'est en lien avec le déploiement du 5G. Le président et chef de la direction de Chambre de commerce de Montréal métropolitain, Michel Leblanc.
Le déploiement du 5G est fondamental pour l'innovation, la productivité de notre économie. Et le ministre s'est engagé à ce que, entre autres, les encans sur les ondes qui vont être rendues disponibles pour le déploiement du 5G, que ces encans-là aient lieu déjà dès cette année.
Alors, les objectifs du rapport sont ambitieux, puisque le Canada souhaite se classer parmi les meilleurs pays en sciences et technologies au monde. Mais Jessica, on est d'accord, ça ne sera pas évident.
Non, en effet, le Canada a pour l'objectif de se classer parmi les 10 premiers pays de l'OCDE. Par contre, ça va vraiment être un défi colossal puisque le Canada se trouve au 17e rang. Et pour y arriver, ça prend des investissements, selon le ministre Navdeep Baines.
Je suis très content avec notre plan et notre plan fonctionne bien. Et c'est une stratégie nécessaire de continuer de créer les emplois.
Et bien que les objectifs du plan pour l'innovation et les compétences soient ambitieux, le ministre Baines se dit persuadé d'atteindre l'ensemble des objectifs d'ici 2025. Et c'est là qu'on sent vraiment la petite odeur des campagnes électorales.
Oui, j'ai l'impression que cette petite odeur n'est pas prête disparaître. Hein?
Pas avant l'automne,
elle
je dirais.
Elle a flotté pendant quelques mois. Merci beaucoup, Jessica.
C'est donc, c'est science. Toute
l'actualité
des talents innovants au Québec.
Salut, Émilie.
Salut, Philippe.
Alors, chaque semaine, tel l'ado attaché à son fil Instagram, YOLO, tel Donald accroché à son mur, idée fixe, tu ne lâches rien en quête du job parfait dans la recherche et l'innovation. C'est le biais d'Émilie, la tête chercheuse.
Je cherche. si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce.
Alors, selon les experts du Forum économique mondial, la robotique et l'intelligence artificielle deviendront les moteurs de la quatrième révolution industrielle. Selon ces mêmes experts, cette révolution entraînera d'ici les 5 prochaines années la suppression de 5 millions d'emplois. Et pour en rajouter une couche, l'Institut canadien Brookfield estime que 46% des emplois au Canada ont un potentiel d'automatisation. Donc, vous l'avez compris, les robots vont devenir nos collègues de travail, remplaçant petit à petit Rachid à la comptabilité et Marie-Chantal au service à la clientèle.
On leur donnera des petits noms. Hein, c'est ça qu'on veut
dire. Je donne toujours des petits noms moi, à mes personnages. Mais d'ailleurs, en parlant de service à la clientèle, en fait, je crois définitivement que les robots ne peuvent pas tout faire. Et pour prouver mon point, je vais vous lire la discussion que j'ai eue ce week-end avec un chatbot du service à la clientèle de mon service, de mon opérateur de téléphonie mobile. Attention, histoire vraie.
Tenez-vous bien.
Alors, je clique sur l'icône clavardée et voici comment tout commence. Bonjour, je m'appelle Pierre, comment puis-je vous aider ? Alors, je réponds, bonjour Pierre, je souhaiterais changer de forfait de téléphone, mais pouvez-vous me garantir que je pourrai garder mon numéro actuel ? C'est important, j'ai mes contacts, je veux pas les perdre. Pierre me répond alors, d'accord, je vais accéder à votre fichier client. Si je comprends bien, vous souhaitez changer de forfait ? Je réponds, oui, mais en conservant mon numéro, est-ce possible ? Il me répète, si je comprends bien, vous souhaitez changer de forfait. Je vais accéder à votre fichier client un instant. Donc là, je me rends compte que c'est un robot. Je lui demande gentiment, Pierre, pourriez-vous me mettre en contact avec un humain, s'il vous plaît ? Et Pierre me répond, patientez, je vous mets en contact avec un conseiller. Alors là, le nouveau conseiller me parle et me dit, bonjour, monsieur Émilie, mon nom est Mohamed, comment puis-je vous aider ? Alors là, je réponds, oh, mon cher Mohamed, je sais bien que nous sommes à une époque de fluidité des genres et que de plus en plus de mecs s'appellent Justine, mais quand même, Émilie, c'est assez clair que c'est un prénom de femme, non ? Mohamed, es-tu vraiment un humain ? J'ai demandé à parler à un humain. Et Mohamed me répond, oui, je suis très humain, monsieur Émilie. Je vous jure que c'est vrai, il m'appelait monsieur. Alors là, j'ai le sang qui monte un peu au cerveau.
Quand même.
Oh, écoute, j'ai le sang qui monte un peu au cerveau, je m'impatiente et je lui dis, sérieux Mohamed, je sais que tu te fous de moi. Et là, il me répond, je n'ai pas très bien compris votre question, souhaitez-vous parler à un de nos spécialistes ? Je lui réponds, eh ben, je vous cache pas que j'ai des migraines récurrentes, ça me ferait en effet du bien de voir un spécialiste. Comment avez-vous deviné ? Mohamed me répond, je n'ai pas très bien compris la question, souhaitez-vous parler à un de nos spécialistes ? Alors, sans déconner Mohamed, mets-moi en contact avec un conseiller spécialiste humain, je sais pas.
Un humain, quoi.
J'étais vraiment frustrée, je voulais changer de forfait, c'était simple. Et là, il me dit, patientez, un conseiller sera disponible sous peu. Finalement, je tombe sur Antoine, qui a l'air quand même assez humain, considérant toutes les fautes d'orthographe qu'il fait en m'écrivant. Et il me dit que pour changer de forfait, faut que je téléphone au service à la clientèle. Comble du comble, j'appelle, je tombe sur Marie-Charlotte, qui m'explique que je dois me rendre en magasin pour ma demande. Donc voilà, les robots,
comme
c'est...
Comme quoi, il y a l'expérience terrain, hein, toujours.
Exact.
Final,
voilà. Les robots, c'est cool, mais les humains, c'est mieux. Donc, vous l'avez compris, il y a encore du boulot avant que les robots nous remplacent. Hein. D'ailleurs, allez jeter un œil aux offres d'emploi sur le site de cessciences.ca, ça vous évitera de dire la prochaine fois.
J'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Merci Émilie, on rappelle, vous pouvez consulter notre sélection d'offres d'emploi, recherche et innovation sur notre plateforme cessciences.ca. Et là, promis, il n'y a pas des robots derrière, il y a des vrais humains qui traitent
des
ça.
Vrais humains.
Et si vous avez des offres à publier, eh bien tout simplement, vous nous contactez via notre plateforme et on se fera un plaisir de relayer. C'est le temps de faire une rapide pause musicale et on revient juste après avec nos invités de la semaine, Lydia Divry, David Bertrand va parler santé, technologie et Scrabble, personnes âgées. À tout de suite.
L'amour dans les draps. Et les week-ends chez toi, c'est garde partagée pour un amour en danger. Au sommet de la colline, ton regard me fascine. Quand tu partais des mois, j'avais le mal de toi. Reviens-moi, entier, vivant, rappelle-moi. Ce soir, tout le temps, visitons la ville de nuit, de jour. Naviguons facile, maintenant, toujours. Reviens-moi, entier, vivant, rappelle-moi. Ce soir, tout le temps, visitons la ville de nuit, de jour. Et naviguons facile, maintenant, toujours. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que ces mines ne suffit pas. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que ces mines ne suffit pas.
C'était Vendredi sur mer, le titre Chewing Gum.
C'est tout, les
semaine.
C'est l'heure de l'invité de la semaine. Et cette semaine, Émilie, on reçoit deux invités. Une habituée de nos plateaux, Lydia Divry, et un nouveau venu, David Bertrand.
Oui, Lydia Divry, présidente directrice générale de Techno Montréal, la GRAP des technologies du Grand Montréal. Et David Bertrand, cofondateur et directeur général de la firme Hospitalis et coprésident du collectif TI Santé.
Lydia Divry, David Bertrand, bonjour.
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 Alors tout d'abord, et avant de parler du collectif TI Santé qui vous amène ici, un petit mot sur cette période prébudgétaire là qu'on a évoquée tout à l'heure en reportage au fédéral et au provincial, évidemment, période prébudgétaire. Est-ce que vous avez fait votre petite lettre au Père Noël?
Ah oui, nous, on a déposé un mémoire déjà en prébudgétaire. On fait valoir le talent parce qu'on est en manque de talent. En fait, on cherche du talent. Et l'innovation, toujours le point central pour accélérer les investissements. Donc,
Ce que papa Morneau et papa Girard doivent apporter dans les souliers de Techno Montréal, c'est plus d'investissements pour amener plus de talent, c'est ça?
Oui, plus de talent, plus de stratégie pour attirer le talent aussi.
En plus, il y a des surplus budgétaires au provincial.
Bah oui, mais on va les prendre.
Alors, comme on disait en introduction, vous êtes ici, Lydia et David, pour nous parler d'une initiative qui est pleine de bon sens. C'est une grappe technologique pilote qui s'appelle Collectif TI Santé. C'est porté par Techno Montréal, la grande grappe, on rappelle, des technologies du Grand Montréal. Et si on devait résumer ce collectif en deux mots, ce serait quoi? Apporter les technologies de la santé aux personnes âgées? Est-ce que c'est ça, Lydia, David?
Essentiellement, le collectif, c'est davantage un environnement collaboratif où ce qu'on va réunir l'ensemble des joueurs de l'industrie ou l'écosystème de l'industrie de la santé. On parle essentiellement de l'industrie, centre de recherche, universitaire et également des donneurs d'ordre.
Et il y a des résidences aussi pour personnes âgées.
Oui, exactement. Quand on parle de donneurs d'ordre, c'est des clients. C'est autant de clients publics et privés. Et l'objectif, évidemment, c'est d'amener l'innovation autour du vieillissement.
Qui a eu l'idée de ce collectif? L'idée, je crois, elle est née il y a 2 ans, en 2017, c'est ça?
Oui, en fait, elle est née... On a fait des travaux il y a à peu près 2-3 ans au niveau de la santé, sciences de la vie. Et pour se rendre compte qu'il y a eu un moratoire des fournisseurs d'entreprises en TI au gouvernement du Québec. Donc, on s'est posé la question, oui, mais quel rôle on peut jouer? Parce qu'on sait qu'au niveau de la santé, il y a beaucoup
c'est
de choses
l'enjeu.
À faire.
Ah oui,
c'est ça, c'est un grand chantier. Partout au monde, c'est un grand chantier. Donc, l'idée est venue du collectif de travailler l'angle du vieillissement de la population parce que c'est un angle qui est important. On veut maintenir les personnes âgées à la maison. Donc, il faut interpeller les technologies puis voir comment ces technologies-là peuvent aider à ce que les personnes âgées puissent gagner en autonomie, rester chez eux et non pas définir de s'en aller dans les résidences des personnes âgées. Donc, l'idée est venue du collectif, mais il fallait encore préciser comment, avec qui, pourquoi. Donc,
L'idée, si je comprends bien, elle est venue du milieu lui-même. Il n'y a pas eu de donneur d'ordre, finalement, de type gouvernemental. C'est vraiment les entreprises privées, les centres de recherche, c'est ça qui ont été à la source de
ça. C'est vraiment l'industrie qui s'est regroupée pour justement amener l'innovation autour justement de cette problématique qui est le vieillissement de la population. Et comme Lydia mentionnait, la cible, c'est vraiment le maintien à domicile dans une perspective aussi de maintien de l'autonomie des personnes âgées, autant cognitive que physique. Et à ça, c'est de faire en sorte que la technologie, de façon globale, c'est de voir l'impact que ça peut avoir autour de la personne âgée. Et quand on parle de technologie, essentiellement, c'est la technologie qui va toucher l'environnement aussi de la personne âgée. Parce que l'environnement parle beaucoup sur les habitudes de vie d'une personne. Et essentiellement, de retirer ces informations-là peuvent nous amener finalement beaucoup d'informations qui peuvent nous orienter vers la prévention et la promotion des saines habitudes de vie et non pas d'être toujours réactif en mode soin ou curatif, essentiellement.
Donc, si on résume bien, David, ces enjeux majeurs donc, qui touchent au vieillissement de la population et à la manière dont les technologies peuvent y répondre, ce serait, on l'a compris, l'autonomie, la mobilité, la prévention médicale, l'isolement, ça serait ça, en gros, les
absolument,
enjeux?
Absolument. Il y a tout l'aspect isolement. Et à ça, c'est justement, on vise beaucoup les milieux de vie. Et lorsqu'on parle de milieu de vie, puis c'est justement un des projets qu'on a à dans le collectif, c'est bien vieillir chez soi, qui se fait en collaboration avec la Fondation Berthiaume du Tremblay et les résidences.
On va en parler de ce cas concret.
Exact, je vais vous en parler de façon plus détaillée tantôt. Mais essentiellement, c'est de faire en sorte que on touche aussi l'isolement, puis de faire... parce qu'on a les proches aidants, mais il y a aussi le quartier. Le quartier, puis souvent, c'est multigénérationnel.
La communauté proche.
Exact, la communauté peut collaborer à ça. Et c'est d'amener des technologies qui vont initier cette collaboration-là au travers, finalement, autant que la jeune famille peut avoir des besoins, que la personne âgée peut avoir des besoins. Et c'est d'arrimer, finalement, ces besoins-là au travers de la communauté.
Oui, parce que c'est ça que vous dites, hein, en fait. Il n'y a pas que la personne âgée qui est concernée. Il y a tout son entourage. On parle de la famille, on parle effectivement du quartier, on parle de... C'est une vraie dynamique, là, d'équipe, finalement, que vous devez, j'imagine, générer. Comme quoi, la technologie, c'est pas uniquement un robot qui va être aux côtés d'une personne âgée. C'est comment on connecte, finalement, avec l'ensemble du milieu. C'est ça l'idée?
Et loin d'avoir du robot.
Loin d'avoir du robot. Alors, vous parliez, David, il y a ce cas concret là pour illustrer donc ce que fait le collectif TI Santé et tout le potentiel de la démarche. C'est le quartier des générations, bienveillirchezsoi.tech. Parlez-nous donc plus en détail de cette initiative. C'est un véritable laboratoire à ciel ouvert. En quelque sorte, disons-le, c'est la résidence soleil du futur, c'est l'appartement du futur?
Essentiellement, c'est plus que l'appartement. C'est l'appartement, mais comme je mentionnais, c'est aussi l'environnement dans son ensemble et la communauté qui gravite autour. C'est clair que l'appartement lui-même, comme on mentionnait, puis le projet, bon, implique effectivement les résidences Bertillon du Tremblay. Et autour de ça, c'est d'amener finalement des technologies non intrusives. Je vais le mettre comme ça. Qui va faire en sorte qu'on est capable d'extirper des données de la vie quotidienne de la personne âgée et qu'on peut venir finalement mixer cette information-là avec des observations qui peuvent se faire par des intervenants. Et au travers de ça, mais c'est de venir confirmer finalement et d'être, comme je mentionnais au préalable, d'être beaucoup plus proactif face à la personne âgée. Et si on voit qu'on décèle un potentiel problème, mais c'est clairement que ça dégénère trop, mais c'est de prendre action et c'est là qu'on tombe dans la prévention.
Venir en amont.
Promotion, exactement, en amont. Et d'éviter, parce qu'un des défis qu'on va avoir dans les prochaines années, et c'est pas dans 25 ans, c'est dans les 3 à 5 prochaines années, l'hospitalisation ne sera pas une solution. Donc, plus la population va vieillir, on parle pratiquement d'ici 5 ans, 25% de notre population va avoir 65 ans.
Plus.
Ce qui fait en sorte que il faut aller beaucoup plus vers le milieu de vie que d'aller hospitalo-centrique. Et d'où vient le fait qu'en étant proactif, on va éviter l'hospitalisation.
Il y a 40 joueurs qui sont impliqués dans ce projet dont on parle. Et là, je me tourne du côté de Lydia. Ces joueurs, on l'a dit, hein, ils sont complémentaires, mais c'est des joueurs aussi du milieu technologique. Comment ces gens-là sont justement arrimés à ce type de projet? Comment ça se passe? Parce que c'est des gens qui ont tous et toutes des plans, des plannings différents. Comment on fait pour les réunir?
La dernière fois que je suis venue, je vous ai expliqué un peu notre stratégie par verticale, puis je vous ai dit que les entreprises, l'industrie ne veut pas se faire voir comme des fournisseurs de services, mais plutôt des entreprises qui veulent investir dans le futur. Et la majeure partie des entreprises qui participent à nos groupes sont prêtes à s'investir, sont prêtes à mettre du temps, parce que en même temps, mettre du temps dans ce type de projet, c'est aussi de tester. Mmh. Et ça leur permet de développer leurs solutions plus rapidement et probablement en collaboration avec d'autres entreprises, donc atteindre des marchés nouveaux à l'international. Donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs entreprises qui veulent s'investir. Et c'est là qu'on voit la compétition et non pas la compétition qui s'installe. Et
compétition.
Compétition, ouais. Voilà. Et non pas la compétition. Donc, il est clair que... C'est des beaux projets. Là.
Ce type de projet pilote, donc Quartier des Générations, l'objectif pour vous, c'est quoi? C'est convaincre les municipalités, les gouvernements, que cette version bêta, elle doit être implantée à terme à plus grande échelle. C'est quoi l'objectif?
Je pense que de travailler de cette façon-là, c'est d'accélérer l'intégration des technologies. Puis on sait qu'on peut développer des technologies pour toutes sortes de solutions, mais c'est la culture, c'est l'usager qui doit être partie prenante. Donc, c'est une façon d'intégrer plus rapidement les technologies. C'est une façon aussi que la culture d'innovation se développe encore plus rapidement, qu'on n'ait pas peur, parce qu'on a parlé des technologies comme si c'était un gouffre sans fond, donc qu'on n'ait pas peur, qu'on l'essaie, et qu'on puisse faire du transfert. Parce que ce qu'on fait avec ce pilote, avec le quartier des générations, ben on peut le transférer ailleurs au Québec. Mmh. Par la suite, on fait du transfert technologique ailleurs et nos entreprises le font en Europe. On est attaché en partenariat avec Bordeaux, qui Bordeaux, soi-disant, stimule les mêmes pratiques que nous actuellement.
Intéressant.
Donc, on est en communication avec Bordeaux pour dire, ben tiens, nous, on essaie ce côté-là. On essaie cette forme de pratique d'utilisation des technologies et eux font trop autre chose. Donc, on est capable d'échanger avec eux par la suite. Puis,
Un élément que Lydia a mentionné, c'est lorsqu'on fait ce genre de projet-là, c'est qu'on vient confirmer l'innovation. Parce que souvent, on travaille sur l'industrie, on va travailler sur des hypothèses. D'où le fait que la recherche est impliquée. Et lorsque la recherche est impliquée, c'est qu'on vient documenter cette information. Et l'innovation, à ce moment-là, une fois confirmée, mais nous, du même coup, c'est qu'on veut assurer aussi une pérennité.
Parce que de la démarche.
De la démarche. Parce qu'on investit, mais après ça, c'est de l'amener à plus grande échelle. Et la cible, essentiellement, oui, c'est probablement de l'étendre au Québec, mais tout entrepreneur veut exporter, veut conquérir l'extérieur du pays. Et c'est là qu'on crée de la richesse. Et à mon sens, l'investissement que nous faisons en collaboration
va avoir cet effet.
Va avoir cet impact-là sur...
Mais vous parliez tout à l'heure, David, de ce qui peut être un défi. Vous parliez du caractère non intrusif nécessaire, justement. On voit que les usagers, et en l'occurrence les personnes âgées, voient les technologies comme des fois des menaces, clairement. Comment vous les sensibilisez, les usagers? Comment vous les embarquez dans ce processus de réflexion? Parce que, sauf exception rare, ce ne sont pas non plus des geeks. Hein. Comment on fait pour embarquer ce monde-là?
Ce sont pas des geeks, mais je vous dirais de plus en plus, les nouvelles générations de personnes âgées sont de plus en plus technologie connaissantes, d'une part. Et du même coup, c'est clair que c'est des aspects de communication, de gestion de changement, d'accompagnement de la personne. Et à prime abord, tout ça est basé aussi sur un consentement de la personne. Le consentement fait en sorte que oui, j'embarque ou non, j'embarque pas, avec les conditions qu'on connaît.
Mais comment vous communiquez? C'est ça ma question. C'est comment on est capable, parce que oui, le consentement, mais avant d'avoir le consentement, j'imagine qu'il faut quand même sensibiliser, même si je comprends bien et j'entends bien qu'ils sont un peu plus au fait et peut-être moins regardants sur les menaces, mais comment... Parce qu'il y a ce côté technologique qu'on a très bien compris, mais l'usager, comment...
On travaille avec la Fondation Bertillon du Tremblay, qui, elle, a d'accord. des résidences, et là, on a des personnes qui vivent dans ces résidences-là et qui se portent volontaires. En fait, l'année dernière, avec notre événement Futur de la santé, on avait un design thinking et on avait des résidents de ces résidences-là qui sont venus participer au design thinking.
En octobre dernier, c'est
ouais,
ça?
Oui, puis ils sont très friands, en fait, de ce type d'activité-là. Puis ils veulent participer, ils veulent essayer. Ils savent qu'ils sont dans une expérience usagée, puis ils sont volontaires. Puis je vous dirais que c'est comme ça qu'on...
Volontaire, c'est ça qu'on...
C'est volontaire.
Oui, c'est volontaire. Puis ce genre de milieu-là, comme Bertillon du Tremblay ou d'autres groupes de résidences, permet justement d'avoir accès à une cohorte de résidents, une masse de cohortes qui est quand même justificative pour faire ce genre de projet-là. D'où le fait que, essentiellement, c'est, comme elle mentionnait, bien souvent, c'est volontaire. Donc, on présente le projet... de façon vulgarisée le plus possible à la personne. Et de ça, mais on demande les volontaires après ma barre.
Et c'est peut-être eux-mêmes qui vont être les ambassadeurs, finalement,
absolument,
de ce
oui,
marché.
Exactement.
On est aussi là à Célebdo pour parler d'impact en termes économiques et en termes de création d'emplois. Les technologies au service du bien-être des personnes âgées, on se le dit entre nous, et c'est un marché énorme, potentiel, compte tenu des perspectives démographiques. On parle désormais, je crois, de la silver economy.
Oui.
Est-ce que vous avez chiffré ce potentiel, notamment pour le Québec? Et surtout, est-ce qu'on a la main-d'œuvre suffisante pour réaliser tout ce beau et grand chantier?
Non, je pense que la main-d'œuvre, comme j'en parlais en tout début, là, on est en croissance en termes de l'utilisation des technologies sont en croissance, le développement est en croissance. Montréal est reconnu comme un hub. On est attractif, donc on est à la recherche de talents. Donc c'est clair qu'il faut combler le talent qui nous manque, mais je pense qu'on est capable de répondre à ce plan d'action-là. C'est curieux qu'on amène le silver economy parce que le seul endroit où on voit ça, c'est en France, hein, avec les termes comme ça.
C'est très français.
Oui, c'est très français. Et en France, en fait, toutes les autant Paris, Bordeaux ou Montpellier, ils sont tous en train de développer un plan d'action de silver economy. Nous, on est là à l'intersection. Faut voir comment on va le développer, ce plan de silver economy. On n'en a pas fait encore. C'est peut-être les futures actions du collectif de s'intéresser à un plan de silver economy. Mais effectivement, en France, ils ont accéléré ces plans-là pour voir comment la technologie, puis ils ont mesuré. Ce qu'on est pour l'instant incapable de mesurer. Mais on sait que la technologie, quand on parle de la valeur de la technologie pour les personnes âgées, c'est non pas seulement pour celles qui sont en forme, ou c'est aussi pour celles qui font de l'Alzheimer. Mmh. Donc, il y a d'autres applications que juste l'usager qui
veut profiter qui de veut, son qui, temps exact. Et bien-être. Voilà. Petite dernière question, est-ce que, on sait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, David, à juste titre, hein, dans 20-30 ans, nos sociétés occidentales claqueront plus des dents que des doigts, hein, ça va être effectivement des 65 ans et plus qui vont être majoritaires. L'espérance de vie ne cesse d'augmenter, est-ce que les technologies sont la solution aux besoins de services, notamment médicaux, qui vont exploser dans les prochaines années? Et si oui, est-ce qu'on est prêt à lancer le bal dès à présent?
Mais je vous dirais que effectivement la technologie, ce sera pas le seul élément. Puis oui, puis je vais faire la durée de vie se prolonge, mais malheureusement encore aujourd'hui, les dernières années sont de non qualité. Et ce qu'il faut assurer finalement, c'est d'amener une qualité de vie le plus longtemps possible, essentiellement. Et la technologie, oui, peut faire. Puis de plus en plus, on parle justement de technologie thérapie. Donc, c'est des applications qui, de plus en plus, se développent et qui ont des impacts thérapeutiques. Et c'est une nouvelle tendance là, qui est en train de sortir. Puis, il y a beaucoup d'avancées là-dessus. Donc, c'est des applications et c'est non pas juste une technologie comme une prothèse ou autre. Mmh. C'est vraiment juste un applicatif. Mmh. Mais appliqué à certains domaines, comme soit l'Alzheimer ou autre, va amener des impacts probants. Qui fait en sorte que la technologie joue grandement un rôle. Mais ce n'est pas la seule solution. C'est pas magique. On va le mettre comme ça.
Mais ce que vous dites, c'est qu'on est prêt.
Absolument. Oui, absolument.
Merci Lydia Divry. Je rappelle, vous êtes PDG de Techno Montréal, la grappe des technologies du Grand Montréal. Et merci David Bertrand, cofondateur et PDG de la firme Hospitalis, mais également co-président du collectif TI Santé. Un grand merci à vous d'être venu.
Merci
à tous de CELEB.
Merci.
Bon matin.
Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces quelques notes de La Grenade. C'est signé Clara Luciani et c'est notre recommandation pour vos travaux de recherche en labo. Merci Jessica, merci Émilie et merci encore une fois Lydia Divry et David Bertrand d'avoir été des nôtres cette semaine. À la réalisation technique, Nchiche Doumbia et toute l'équipe de GTS, Philippe Regnou au micro. C'est l'hebdo, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous jeudi prochain d'ici là. Excellente fin de semaine à tous. Sous ma poitrine.